Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour une analyse transversale et opérative de la guerre en Ukraine, j'ai le plaisir de recevoir le général de corps d'armée Michel Yakovlev, général en deuxième section désormais. Je veux dire que général de corps d'armée c'est 4 étoiles pour les auditeurs qui ne seraient pas totalement familiers avec la nomenclature. Donc voilà, au-dessus de ça c'est le soleil quoi, ou en tout cas c'est les chefs d'état-major. Et je peux préciser que vous avez fait une grande partie de votre carrière dans la cavalerie et dans la Légion étrangère, et que vous avez notamment été déployé dans le cadre de la Première Guerre du Golfe, puis dans les Balkans dans les années 90 et 2000, avant d'effectuer une partie de votre carrière d'état-major au sein de l'OTAN, et puis plus généralement, vous avez une grande expérience des opérations interalliées. Théoricien aussi, puisque je peux signaler que vous êtes l'auteur d'un ouvrage, Tactique théorique, qui est une sorte de best-seller, en tout cas dans les milieux militaires, puisque je voyais récemment que vous en êtes, je crois, à la troisième ou à la quatrième édition. Et commentateur désormais, parce que je peux préciser qu'on peut vous voir depuis le début du conflit ukrainien, notamment sur LCI, où vous vous êtes fait connaître assez rapidement du grand public par vos analyses précises et vos remarques cinglantes, et où on a plaisir à vous voir encore très régulièrement. Je peux dire, il y a des comptes Twitter, notamment à votre gloire, qui ont essaimé depuis quelques semaines. Donc bonjour, général, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour Alexandre.
Alors, je suis ravi que vous soyez là aujourd'hui, parce que je veux dire, je suis un assez grand fan de vos analyses du conflit quand je tombe dessus. Je vais pas mentir, je suis pas LCI tous les jours non plus, mais parce qu'elles détonnent, elles sont précises et percutantes, et donc parfois lapidaires, souvent pour souligner les grandes faiblesses, selon vous, des armées russes. Et c'est assez rare, mais je veux dire qu'elles sont souvent très drôles, ce qui est pas facile à faire dans le contexte, dans le format qui sont proposés par les télévisions, je le dis d'autant plus facilement que je le sais pour l'avoir vécu, disons, aux premières loges. Et donc je trouve que vous arrivez tout à fait à y déployer des analyses vraiment percutantes dans ce format, et j'avais donc très envie de vous proposer de les déployer avec un format qui permet quelque chose d'un peu plus long, d'un peu plus en profondeur, ce qui est l'objectif du Collimateur, et je me réjouis donc de pouvoir le faire avec vous, et de faire un bilan des enseignements et des retours d'expérience provisoires sur le conflit. C'est évidemment un exercice auquel on s'est déjà livré ici, avec d'autres commentateurs distingués, comme Michel Goya, Olivier Kempf, Alexandre Sheldon-Duplay, et beaucoup d'autres sur des aspects ciblés, mais évidemment ce sont des réflexions qui ont pour matière première un corpus en permanente évolution au fil du conflit, et c'est donc utile, je crois, de se livrer à ces coups d'œil englobants et transversaux à intervalles réguliers, et en l'occurrence alors qu'on se trouve au milieu d'une contre-offensive ukrainienne qui a tendance à engranger les succès, en tout cas à l'heure où on enregistre, donc le 18 octobre. Mais pour prendre un point de départ un peu stable, et puisque je l'ai dit, vous soulignez les grandes faiblesses des armées russes, dont vous vous étonnez parfois, j'aurais donc aimé vous demander par rapport à quoi en fait. C'est-à-dire, pour le dire autrement, d'où est-ce que vous partiez? Quelle était votre image et votre idée de l'armée russe et de ses capacités, mettons au 20 février, quoi, avant l'invasion, en général, puisque c'est évidemment très large, mais aussi rapporté au genre de conflit et d'intervention qu'a été la guerre en Ukraine, parce que même si tout le monde a été surpris dans une certaine mesure, sur le moment, par la forme que ça a pris, bon, d'une part, il y avait des signes avant-coureurs, et d'autre part, évidemment que ça fait des décennies que tout le monde, dans le bloc occidental, se réfléchit et se prépare à ce type d'action potentielle de la part des soviétiques, puis des russes. Donc voilà, quelle était votre image avant l'invasion ukrainienne?
Je pense que mon image avant a été dans une large mesure influencée par l'intoxication russe, je le dis entre guillemets humblement. C'est une armée qui ne s'était pas montrée à son avantage dans la bataille de Grozny en 1994, dans une première phase, et qui après s'était réformée en 3 semaines et avait emporté la bataille. Alors au prix de la destruction totale de Grozny, mais... On tenait à voir, généralement mes amis de l'OTAN ou mes amis français considéraient que la bataille de Grozny était une catastrophe d'incompétence. Et je leur rappelais que quand même, à la fin, les Russes avaient gagné. Donc, ils avaient amélioré leur performance. Alors, au détriment de la ville, mais ils avaient gagné. Donc, c'était une armée qui savait apprendre presque en marchant. Après, il y a eu 2008 en Géorgie, où l'armée russe s'est montrée sous-performante face à quand même un nain militaire qui était la Géorgie. Et donc, on s'était dit, les gens qui discutaient un peu de ça, si vous voulez, c'est « Ah bon, ben, c'est pas terrible leur performance ». Et il y a eu une grosse réforme de l'armée russe. Le régime Poutine a mis beaucoup d'argent dedans, beaucoup d'investissements psychologiques aussi, pour sortir l'armée russe de l'humiliation du passage de l'armée rouge soviétique à l'armée russe du moment. Et en 2014, ils ont réussi un très beau coup, c'était quand même extraordinaire, la conquête sans coup férir de la Crimée. Et dans le Donbass, une performance, notamment grâce aux forces spéciales et aux proxys qui étaient les milices, entre guillemets, enfin soi-disant séparatistes, ils ont réussi un assez beau coup militaire. Et puis il y a eu leur expédition syrienne où ils ont démontré un certain nombre de capacités. Donc, pour ma part, et je pense que c'était l'opinion généralement partagée parmi mes collègues à l'OTAN, ceux qui font des scénarios, et puis les quelques généraux français que j'ai vus à l'époque, on se disait cette armée russe est en processus de réforme, et au sens positif du terme pour eux. Et donc on s'attendait quand même à une autre performance le 24 février.
Mais justement, déjà, est-ce que vous vous attendiez, parce que bon, on l'a un peu oublié, mais enfin, ça s'est rejoué, enfin, il y a eu les prémices se sont rejouées un paquet de fois, avant les Russes qui massent des troupes à la frontière, qui font des exercices, etc. Puis tout le monde, au bout d'un moment, on s'est lassé, on s'est dit, en fait, ils iront pas, c'est un moyen de pression, etc. Vous, dans quelle mesure est-ce que ça vous a surpris, pas surpris, le fait qu'ils aillent pour de bon et passent la frontière?
Ah oui, très clairement, je ne croyais pas à l'attaque du 24 février. J'y croyais absolument pas. Et mon argument majeur, et j'ai eu à le sortir devant des tas de gens, donc ça m'a rendu modeste pour la suite, c'était de dire, pendant ces trois mois de campagne, en fait, médiatique, de pression, d'intimidation, Poutine avait obtenu plusieurs choses. La première, c'était qu'il avait ridiculisé Zelensky et qu'il avait profondément déstabilisé le régime ukrainien. Je crois que les sondages donnaient 17% d'opinion favorable à Zelensky. Il avait effectivement enfermé dans son rôle de clown pitoyable. C'était ça, Zelensky, le 23 février. Ensuite, en monopolisant le dialogue avec l'Amérique, il avait mis l'Union européenne hors jeu. L'Union européenne était marginalisée et donc à sa façon ridiculisée. Et en s'affichant dans un dialogue direct avec les États-Unis, eh bien Poutine se mettait à sa place, à la place qu'il considère légitimement comme la sienne. Je suis encore une superpuissance, il n'y a que moi qui parle d'égal à égal avec Xi Jinping et avec, en l'occurrence, le régime, l'administration Biden. Et tous les autres, vous êtes des petits et vous ne comptez pas, y compris l'Europe. Et donc, si le 23 février, il avait déclaré victoire en disant « j'ai obtenu ce que je voulais » et qu'il avait fait repartir ses armées, la terreur inspirée aurait persévéré. Il y a un effet de rémanence. Et puis, vous retirez les molosses, mais vous ne les édentez pas. Donc, tout le monde sait qu'ils peuvent revenir. Et donc, si j'avais été lui, ayant ainsi déstabilisé profondément l'Ukraine, ridiculiser l'Union européenne, poser l'Amérique devant un dilemme quand même dur à vivre pour les Américains, au sens jusqu'où aller dans le soutien à une cause perdue, eh bien j'aurais attendu patiemment 6 mois, 1 an pour cueillir le fruit, si vous voulez. Donc donc pour moi, il était irrationnel d'attaquer. Voilà, c'était idiot, même s'il l'emportait. C'était cher payé pour alors qu'il n'avait qu'à engranger les résultats de son investissement, qui n'était pas une victoire immédiate, mais qui était l'acide dans la machine.
Et ensuite, si on entre sur les formes que ça a pris, donc ces opérations combinées sur 3 fronts, etc., est-ce que ça vous a surpris? Et puis aussi, est-ce que ça vous a rappelé des choses peut-être que vous aviez travaillé, vu, envisagé quand vous étiez à l'OTAN. Enfin, je veux dire, on le dit, une opération terrestre de l'armée russe, ça fait, c'est pas une nouveauté conceptuelle majeure, ça fait longtemps qu'on y réfléchit. Et donc, la manière dont ça s'est fait, est-ce que c'est rentré dans des cadres que vous aviez déjà vus, ou est-ce qu'il y a eu quand même un... Vous avez dit ça, ça détonne par rapport à ce qu'on envisageait.
Eh bien, paradoxalement, la manœuvre qui s'est dessinée, elle avait été prévue presque à la flèche près par, sauf erreur, un rapport de la RAND, qui est public, hein, un an ou deux avant. Si les Russes attaquent l'Ukraine, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Et donc, mettant en avant la très grande supériorité des moyens, les trois flèches de l'attaque initiale figuraient sur un rapport ouvert. Au sens, moi, si je fais la planification à la place des Russes, je fais ça.
La RAND, rappelons, c'est un think tank, mais c'est un think tank un peu compliqué.
Américain, ouais.
Américain, parce qu'ils sont très proches du
département. Très proches du Pentagone.
Donc, ils font un peu des commandes. C'est pas de la parole officielle, mais c'est pas de la parole totalement pas officielle non plus. Quoi.
Oui, absolument. Et malgré tout, des chercheurs que j'ai rencontrés, c'était sur un autre sujet, étaient, entre guillemets, libres. Bref, on leur commande des études, mais on ne préjuge pas du résultat, si j'ose dire. Bon. Et alors, quand la guerre a commencé sur trois fronts, ma première réaction, bon, passer la surprise et le moment de « oups, je me suis trompé, hein, complètement hein, ». Bon, une fois, après, on regarde. Et je me suis dit, quand même, trois flèches, c'est quand même beaucoup. Donc, au sens, c'est trois directions opératives à gérer. Ça suppose une vraie compétence, ça suppose une planification avancée, ça suppose une bascule des moyens aériens au profit de l'un ou de l'autre, par exemple.
Et, du coup, on va voir ce qu'ils valent vraiment.
On va voir ce que ça donne. Et très rapidement, ça s'est arrêté. Les trois flèches se sont ensablées, en gros. Et puis, on a vu, donc, après, les Ukrainiens ont adopté une très bonne tactique, hein, la tactique de l'édredon. Ils ont laissé rentrer, sans offrir de masse significative à détruire. Et puis, ils ont harcelé sur les arrières. Enfin, bref, tout ça, on le sait maintenant. Et la deuxième surprise...
Je ne connaissais pas la stratégie de l'édredon.
Oui.
On les laisse s'enfoncer et on les enveloppe.
On laisse enfoncer, on enveloppe. Voilà. Et on évite de laisser crever. Alors, il y a eu des résistances sur des points durs, notamment pour pas les laisser rentrer trop dans Kiev. Mais après, en voyant les effectifs engagés par les Russes, et sachant qu'ils voulaient s'emparer de villes, je me suis dit tout de suite, et j'étais sur des plateaux pour le dire, ils n'ont pas les moyens de s'emparer des villes. Kiev n'est pas à leur mesure. Kharkiv n'est pas à leur mesure. Quand on voit les effectifs, c'est pas possible.
Ça, je peux préciser pour ceux que ça intéresse, que c'est un de vos chevaux de bataille, la dimension du combat urbain et la manière dont les armées sont prêtes ou pas pour le combat urbain. Je peux renvoyer, vous avez récemment participé à un colloque à la BNF qui s'appelle La tactique au XXIe siècle, qui est librement visionnable sur YouTube, où vous développez tout ça largement. Vous indiquez beaucoup que, en fait, les armées modernes, et notamment françaises, ne sont pas prêtes pour le combat urbain, mais vous dites les armées russes non plus, quoi.
Absolument. Là, ils avaient avalé trop gros, et donc on s'est rendu compte très vite qu'ils avaient un présupposé d'effondrement du régime. En d'autres termes, cette armée, oui, était correctement dimensionnée pour occuper un pays complètement à la ramasse, avec une dissolution des institutions. Tout le monde rend les armes. Voilà. Donc cette armée aurait été capable de faire ça. Mais pas face à une armée combattante et un peuple entier qui a participé.
Et est-ce que vous avez réussi à comprendre un peu plus pourquoi, notamment est-ce que par votre connaissance ou pas d'officiers russes, parce que je peux dire vous avez été à l'OTAN, enfin vous avez été à des responsabilités à une époque où bah, avec les Russes c'était pas si contentieux que ça, où même on leur vendait des navires de classe Mistral, donc il y avait des liens quoi, il y avait une vraie interconnaissance entre état-major, ce qui est bien quand on vend des armes à quelqu'un, il faut faire des partenariats. Donc, est-ce que vous en avez connu, j'imagine, des officiers russes de cette époque-là? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce que vous réussissez à comprendre ou comment ils prennent leur place dans ce qui est en train de se passer, quoi?
Alors, j'en ai rencontré pendant une semaine au Collège de défense de l'OTAN, de mémoire en 2010, parce que après le coup de Géorgie, il y a eu un gel des relations du Conseil OTAN-Russie. Et puis en 2010, de mémoire, il y a eu un rétablissement de la coopération militaire. Donc, sans préjuger des condamnations pour la Géorgie, au moins on reprend les... Voilà. Et donc, on a restauré le dialogue stratégique. Et le dialogue stratégique, c'était une semaine d'échange entre officiers supérieurs et universitaires, OTAN et russes. Et la pratique existait avant 2008. Et c'était donc alternativement à Rome, au Collège de Défense, et à Moscou, à l'Académie des sciences militaires, ou je ne sais pas comment elle s'appelle exactement. Je ne suis jamais allé, en fait. Et donc là, il se trouve que l'année à laquelle j'ai participé, où j'étais le plus haut gradé dans la délégation OTAN, était à Rome. Et donc face à nous, il y avait un général d'armée, pensionné, qui avait commandé les forces stratégiques de missiles. Donc chez les Russes, c'est très très prestigieux. Et là, il était commandant de l'académie. Et il avait une quinzaine d'officiers avec lui. Et nous avons abordé des thèmes comme par exemple la décommunisation, la perception de menace. Sommes-nous une menace pour vous ou pas? Discussion très intéressante. D'ailleurs, le général il s'appelait Yakovlev aussi, Vladimir Yakovlev.
C'était Yakovlev contre Yakovlev.
Oui. C'est le nom le plus commun en Russie, c'est comme Martin en France. Donc, et il était drôle parce qu'il m'aimait bien, parce que forcément, on se charognait pas mal quand même. Et il m'a dit à un moment, attends, faut pas oublier, même les paranoïaques, parfois, ont de vrais ennemis. Donc on avait des discussions très très franches. Alors, ça permettait pas de mesurer la performance de l'armée russe. Et en particulier dans la génération d'officiers qui étaient là, qui étaient sans doute l'équivalent de nos chémistes, en gros. Donc, au sens des gens qui sont là parce qu'ils ont de l'avenir.
Le CHEM, on peut préciser que c'est un organisme qui est ici à l'école militaire, qui forme les hauts officiers. On l'appelle parfois la piste aux étoiles, parce que généralement, si vous êtes officier au CHEM, c'est que vous allez finir avec des étoiles sur la manche. Donc voilà, c'est une sorte de pool de formation pour les futurs très hauts gradés.
Absolument. Et donc là, c'était manifestement des futurs très hauts gradés. Alors pas forcément les postes sommitaux, bien sûr, mais bon, bref, c'était des gens à avenir. Et en gros, l'un d'entre eux, qui parlait un peu mieux anglais que les autres, m'a dit dans une discussion, tu vois, il y a la moitié d'entre nous, on est occidentalisé au sens où on pense qu'il faut qu'on collabore avec le monde, l'Occident, que vous ne nous en voulez pas, etc. Et puis il a dit, l'autre moitié est dans un trip paranoïaque, en gros. Donc il parlait ses propres camarades, là, avec lesquels il montait dans le bus le matin, pour aller de l'hôtel au Collège de Défense. Donc déjà, entre eux, il y avait la querelle des anciens et des modernes, si j'ose dire.
Et donc là, comment vous... Enfin, je ne sais pas si vous avez suivi qui c'était et ce qu'ils sont devenus, mais en tout cas, comment cette appréhension que vous avez eue des officiers, des futurs officiers russes, voilà, ça s'est traduit dans ce que vous avez vu à partir de février?
Très clairement, nous avons une génération d'officiers face à vous qui a vécu l'humiliation de la fin de l'Union soviétique, le départ des pays du pacte de Varsovie, des budgets militaires amputés de 90%, des gens jetés dans la rue sans préavis et sans indemnité de licenciement, des familles logées dans des camps de toile en Sibérie. Donc ils ont vécu un déclassement fantastique.
Même cette génération-là.
Cette génération-là. Les généraux d'aujourd'hui étaient capitaines à ce moment-là. Et donc... Pour eux, toutes les petites aventures, la Crimée a été pour eux le révélateur de leur performance et un moment d'intense jubilation parce qu'ils montraient au reste du monde que la Russie était de retour et qu'elle faisait le droit autour d'elle. Et donc ils étaient dans ce...
Donc c'est pas que Poutine, c'est une...
Non, il y a toute une génération qui a bénéficié de la modernisation de l'armée et malheureusement pour l'armée parce que beaucoup d'entre eux en ont bénéficié au sens corruption du terme. Ils en ont bénéficié. Et comme il y avait beaucoup d'argent jeté aux forces armées pour se développer, on sait qu'une bonne partie de cet argent est allée dans autre chose que l'achat de capacités réelles. Donc beaucoup d'entre eux en ont profité. Mais surtout, pour leur esprit, leur fierté, le retour d'une Russie puissante, forcément, ça leur a fait très plaisir. Et puis les Russes, ils ont une théorie des relations internationales qui n'est pas la nôtre, C'est-à-dire que la nôtre est fondée sur l'égalité des nations en droit. On n'est pas égaux de fait entre le Luxembourg et la France ou la France et les États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a une égalité en droit. C'est là-dessus qu'est fondée l'ONU, l'OTAN, l'UE, l'OSCE, etc. Chez les Russes, ils partent du principe qu'il y a une hiérarchie des nations. Leur théorie, c'est la hiérarchie des nations. Donc il y a des nations plus puissantes que d'autres. Donc tu es la Géorgie, je suis la Russie. À la fin des fins, tu fais ce que je te dis et c'est normal. Alors que nous, même si on l'a fait avec la Serbie, hein, pour le Kosovo par exemple, à l'arrivée, on leur a expliqué qu'on était plus puissant qu'eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, le droit des nations,
le terme
on s'est un petit peu assis dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais on était gênés, on a cherché des tas de trucs, des tas d'argumentaires qu'on trouvait pour dire qu'en fait, c'était pour... Vous voyez ce que je veux dire ? La nécessité de protéger, etc., etc. L'obligation de protéger. À la limite, on les empêchait de commettre un crime contre eux-mêmes. Voilà. Donc, on a fait ça par grandeur d'âme. Les Russes n'ont même pas à se chercher de prétexte. C'est l'affirmation de « je suis plus puissant que toi, donc je n'ai pas à t'expliquer pourquoi. Mais tu vas faire ce que je te dis. »
Même si parfois ils l'ont fait, on en parlait à une époque avec Olivier Schmitt notamment, ils l'ont fait de manière... Ils ont beaucoup retourné l'argument de la Serbie contre nous, oui. Contre le bloc occidental, avec une habileté rhétorique... certaines, et puis on avait un peu donné le bâton pour se faire battre, il faut bien le dire. Alors, et de l'autre côté, l'armée ukrainienne, qu'est-ce que vous en saviez, qu'est-ce que vous en pensiez, comment est-ce que vous la voyez, puisque bon, il y avait le passif de 2014 qui n'était pas franchement brillant, mais en même temps, on pensait qu'elle s'était réformée, on ne savait pas à quel point, etc. Vous partiez d'où en février ?
Alors, en février, j'avoue que je n'avais pas travaillé l'armée ukrainienne depuis quelques années, bon. D'abord, en 2014, l'armée ukrainienne était en transition. Elle passait d'une armée de conscription à une armée professionnelle, encouragée en cela par l'OTAN. Ça faisait partie de sa perspective de long terme de rejoindre l'OTAN. Parce que les Américains ont vendu ce modèle, et à mon avis à tort, à un certain nombre de pays en tout cas, disant que pour avoir une armée professionnelle, il faut évidemment avoir des professionnels. Donc ils ne comprennent pas qu'une armée d'appelés est capable de très hautes performances, comme les Suisses ou les Finlandais, soit dit en passant.
Donc, ça me fait faux sourire un tout petit peu, parce que je peux dire, les auditeurs le savent ou savent pas, mais vous êtes vous-même un appelé, je crois que vous êtes le dernier officier français.
Moi j'ai commencé comme appelé.
Qui a commencé comme appelé et qui a fini quand même 4 étoiles. Donc j'imagine que les appelés ont une place un petit peu dans votre cœur.
Oui, dans mon cœur. Et notre armée française, le corps de bataille français, avait un niveau de performance collective, hein, je parle de manœuvres, de tirs collectifs, etc., qui n'avait rien à envier. L'armée était une école. C'était une très bonne école. Et l'armée allemande de l'époque aussi. Je veux dire, par là, pendant la guerre froide, l'armée rouge n'aurait pas traversé l'Allemagne comme ça. Vous voyez, donc il y a juste ce truc des Américains qui est, si vous êtes une armée professionnelle, vous êtes une armée à base de professionnels. Alors que, de mon point de vue, ce n'est pas le cas. Bon, moyennant quoi, les Ukrainiens étaient en train de changer de modèle en 2014. Donc, ils n'avaient plus les effectifs de l'armée de conscription et ils n'avaient pas encore les professionnels de l'armée professionnelle. Il y a eu une fenêtre d'opportunité que le président Poutine a exploitée. Et donc, il les a attaqués vraiment au pire moment pour les Ukrainiens. Mais quand on parle de sous-performance ukrainienne, il ne faut quand même pas oublier que quand le Donbass, les séparatistes du Donbass ont commencé à prendre le contrôle de leur république autoproclamée, la réaction de l'armée ukrainienne a été très efficace. Les Ukrainiens étaient en train de leur casser la figure et ils allaient bientôt aborder la frontière russe, c'est-à-dire ils allaient bientôt purger l'affaire. Et c'est là que l'armée russe est intervenue directement dans le conflit. Et là, il y a une brigade ukrainienne qui s'est fait carboniser en une après-midi. Et puis, les Russes ont fait le ménage, si j'ose dire. Ils ont cassé l'élan de l'armée ukrainienne et progressivement, le front s'est stabilisé là où il est resté, en gros, de 2014 à 2022. Donc, c'est quand même pour dire qu'une armée qui partait du front avait été capable d'une performance cohérente et crédible et qu'il avait fallu une manœuvre ouverte, explicite de l'armée russe pour leur casser la figure et les arrêter. Donc cette armée s'était déjà avérée quand même assez compétente, en réalité assez compétente. Et puis de 2014 à 2022, pendant que nous, en Occident, on regardait ailleurs, eh bien la guerre a continué. La guerre a continué. Et moi, j'ai rencontré des militaires ukrainiens en Ukraine en 2018-2019, quand j'y allais de temps en temps. Et ils disaient, je reviens du front, ou j'y vais dans 3 mois. Donc...
Ils le pensaient vraiment comme un front actif.
Mais ils avaient des morts. C'était pas un conflit. Des morts quasiment tous les jours. Ça bombardait, ça faisait... Donc la guerre a continué.
Il y avait peu de chances qu'ils s'endorment autant que nous sur le sujet.
Non, non. Et pendant ce temps-là, ils ont réformé leur structure. Alors l'OTAN et les Occidentaux ont été très réticents à les aider initialement. Parce que moi, en 2014, j'étais à l'OTAN et j'avais fait campagne à mon petit niveau de petit gradé pour dire faudrait qu'on les équipe, faudrait qu'on leur donne en particulier de l'artillerie de contre-batterie, des radars, faudrait qu'on leur donne des moyens.
Donc l'artillerie de contre-batterie, rappelons, c'est la contre-attaque, c'est voilà, il y a un objet qui vous tape sur la tête, il faut être capable de le repérer et de faire un feu assez rapidement pour l'éliminer.
Voilà, c'est pour détruire l'artillerie adverse et donc... priver l'adversaire d'une bonne partie de sa puissance de feu. Et il y avait cette réticence. Alors, il y avait un partenariat avec l'OTAN, Ukraine-OTAN, de formation, mais c'était des séminaires d'une semaine où il y avait 15 ou 20 Ukrainiens qui suivaient le séminaire. Donc, des séminaires en planification, des séminaires en engins explosifs improvisés, vous voyez, des trucs quand même assez spécialisés. Donc on ne peut pas dire que l'armée ukrainienne ait été formée à l'école de l'OTAN. Non. Il y a eu des cadres chez eux qui ont eu des événements pédagogiques organisés par l'OTAN. Ça les a aidés, si vous voulez. Mais fondamentalement, leur performance ne relève pas d'une semaine de stage. Bon.
Puis tout le monde sait que les séminaires, on est toujours d'une attention plus ou moins active et que ça a des effets inégaux.
Enfin, les Ukrainiens, ça, ils potassent, sont de bons élèves, en tout cas. Et puis, à partir de 2017, les Américains et les Anglais, dans une moindre mesure, leur ont donné quelques matériels, comme les javelines, et un peu de formation. Mais l'armée ukrainienne n'est pas passée à la toise des Américains, des Anglais ou de l'OTAN. Pas du tout. Il y a eu un certain nombre de cadres qui ont été initiés, et puis surtout à certaines techniques, si vous voulez, d'état-major, par exemple. C'est pas comme si on avait pris... C'est pas comme si tous les officiers de l'état-major ukrainien d'aujourd'hui avaient passé un an de stage aux États-Unis ou dans un autre pays de l'OTAN. C'est pas le cas. Quelques-uns d'entre eux ont fait ces stages. Donc la performance ukrainienne d'aujourd'hui, c'est pas un fauné de la performance américaine. Vous voyez, je pense que les Américains les ont beaucoup aidés dans la chaîne renseignement, et toujours maintenant pour l'exploitation du renseignement et le ciblage, sûrement dans la logistique, pour les aider à... Voilà. Mais il y a un certain nombre de solutions logistiques mises en œuvre par les Ukrainiens qui sont... Ça, c'est pas les Américains qui les ont inventées, comme par exemple utiliser les garages civils pour la maintenance d'un paquet de leurs véhicules. Cette forme de sous-traitance, je crois que ça ne viendrait pas à l'esprit naturel d'un officier américain. Et leur plan de manœuvre, notamment dans le nord, là, autour de Kharkiv, à mon avis, c'est un plan ukrainien. Que les Américains aient regardé, c'est possible, mais c'est clairement un plan ukrainien. L'argument majeur pour moi, c'est que c'est un plan qui ne dépendait pas de la supériorité aérienne. Or, je n'ai jamais rencontré un Américain capable de concevoir une manœuvre terrestre qui ne bénéficierait pas de la supériorité aérienne. Pour eux, c'est impossible. C'est pas possible. Donc je ne vois pas, je ne connais pas l'Américain aujourd'hui qui aurait pu participer à une planification joyeuse d'une opération terrestre d'ampleur sans supériorité aérienne. Ça, conceptuellement, on est dans l'impossibilité. Maintenant, malgré tout, peut-être que... alors, ce que je dis, c'est un résultat de mes observations lointaines, c'est une opinion. Vous voyez ce que je veux dire ? Si ça se trouve, après la guerre, il y aura un grand débriefing et on m'amènera les 242 officiers américains qui ont fait le plan pour les Ukrainiens. Vous voyez ce que je veux dire?
On l'attend un peu le débriefing et on va rentrer vraiment encore plus dans le détail, mais c'était justement la question que j'allais vous poser pour savoir aussi de quoi on parle et sur quelle matière première. D'abord, comment est-ce que vous avez des informations? Est-ce que c'est le LOCINT, du renseignement source ouverte comme on l'a tous? Et puis, à quel point est-ce que vous avez l'impression de réussir à sentir ce qui se passe sur le terrain, sur les fronts qui sont actifs en ce moment? Et à quel point vous vous dites, on peut avoir des intuitions, mais il va vraiment falloir attendre des mois et plutôt des années avant que ça remonte, quoi.
Absolument. C'est le deuxième terme de votre proposition qui est, pour moi, le plus, entre guillemets, scientifiquement fondé. Aujourd'hui, moi, je ne dispose d'aucune information autre que celle qui est accessible. Et celle qui est accessible, elle est orientée. Donc je lis pas mal la presse anglo-saxonne et américaine parce que c'est généralement par eux que nous viennent les informations qui, après, sont souvent validées par les faits, si vous voulez. Donc, mais ce n'est pas la vraie information dont disposent les états-majors et, je suppose, dont on dispose... à Paris, les décideurs...
On espère, en tout cas.
Voilà, je l'espère, voilà. Maintenant, il y a... à côté de ça, il y a quand même des choses qu'on peut déduire avec ce qu'on sait. Par exemple, ma réaction initiale, 3 flèches sur la carte, c'est beaucoup s'il y a de la résistance. Kiev est hors de leur portée. Ça, j'étais pas obligé d'avoir un renseignement de haute valeur très récent pour faire cette déduction, si vous voulez. Aujourd'hui, ma conclusion que l'armée russe est dépourvue de capacité de manœuvre, c'est parce qu'ils n'ont montré aucune manœuvre. Depuis qu'ils prennent des baffes, il n'y a pas de contre-attaque locale. L'attaque de Bakhmout, dont on fait grand cas, c'est une continuation d'attaques, c'est presque l'acte réflexe du canard dont on a coupé la tête, et ça ne mène à rien. C'est en dehors d'une victoire psychologique qui fera peut-être oublier Kherson, par exemple. Mais cette armée, la première armée russe, si vous voulez, celle qui est en train de mourir dans le Donbass, n'a pas changé de style de combat, ne s'est pas améliorée. Ça, c'est un facteur important. Il n'y a pas d'amélioration de la performance depuis le début de la guerre. Alors que en Géorgie, alors que jusqu'avant, il y avait quand même une tendance à l'amélioration. Cette armée-là ne s'améliore pas au fur et à mesure. C'est pour ça que je dis qu'elle est condamnée. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous vous dites que cette armée est contrainte à la défensive, qu'elle ne sait pas régénérer de manœuvre, de force de manœuvre, et que sa performance ne s'améliore pas, c'est la situation de l'armée française début juin 1940. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le résultat est garanti. Ce n'est pas encore fait, mais c'est garanti. L'armée française, en juin 1940, était encore une très grosse armée, avec beaucoup de soldats, beaucoup de moyens, mais elle avait déjà perdu. Donc c'est pour ça que je dis, les Russes en sont là. Et leur deuxième armée qu'ils sont en train de créer à base de mobilisation, ils ne sont pas en train de l'entraîner. Manifestement, ils ne sont pas en train de l'entraîner. Et ils n'ont pas récupéré sur le front les cadres qui permettraient de l'entraîner. Donc c'est une armée qui n'est pas encadrée, qui est sans doute sous-équipée, et dont le moral est nul, parce que les 250 000 mobilisés, aucun d'entre eux, pas un d'entre eux, n'était volontaire pour la guerre. La démonstration est facile à faire. S'ils avaient été volontaires pour la guerre, ils avaient eu plein d'occasions de s'engager avant. Donc la mobilisation n'a porté que sur des gens qui, depuis 8 mois, ont tout fait pour pas y aller. Et c'est avec cette armée-là que les Russes prétendent gagner la guerre.
Don't fuck with Ukraine.
Alors maintenant, justement, pour rentrer dans vraiment le vif du sujet et l'analyse pied à pied, en quelque sorte, des performances des deux belligérants et de ce que le conflit nous a appris sur leur capacité. Alors je l'ai dit, on en a déjà passé pas mal en revue, mais il y a un cadre, un format, une grille que vous avez suggéré, que je reprends bien volontiers pour organiser ce qu'on va dire, c'est la grille d'Otmil-PF, qui est une manière américaine puis otanienne de percevoir les choses et d'envisager une opération et une mission. Donc d'Otmil-PF, c'est doctrine, organisation, training, donc entraînement, matériel, leadership, personnel et infrastructure, facilities, ce à quoi on peut rajouter l'information. Donc voilà, pour analyser et pour voir ce que chacun a donné, nous commençons par la doctrine, c'est-à-dire globalement la manière dont on veut se battre, dont on conçoit le combat. Alors on a fait récemment une longue émission avec Vincent Touré sur la doctrine et la pensée stratégique russe, mais dites-nous peut-être comment vous analysez la manière dont cette doctrine s'est un peu heurtée à la réalité de l'opération spéciale, ce qu'ils appellent comme telle en tout cas, depuis février.
Oui, alors déjà, la performance russe, elle a été très affectée négativement par le fait de dire au début c'est une opération spéciale, parce que ça n'a pas permis de mobiliser tous les moyens derrière, et pas que les moyens humains. Donc déjà, rien qu'au départ, ne pas dire aux gens la vérité sur ce qu'ils vont faire, ça n'aide pas. Bon, et la structure n'était pas prête pour ça. Ensuite, le gros trou dans la doctrine, c'est qu'on a constaté, et là vraiment à notre grande surprise, qu'il n'avait pas de doctrine interarmée. On n'a pas vu de campagne aérienne liée à la campagne terrestre.
Alors ça, on va reprendre très rapidement ce qu'on dit Vincent Touré, mais il y a un problème culturel, enfin c'est pas un problème, mais c'est une organisation culturelle chez les Russes, qui est le fait qu'ils subordonnent les VKS, donc l'aviation, à la manœuvre terrestre, qui est censée permettre une certaine intégration, mais enfin de fait, dont on voit qu'elle a peu ou mal fonctionné. Donc en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas les analyser à l'aune des armées otaniennes, parce qu'ils conçoivent pas les choses de la même manière, mais en tout cas, force est de constater que ce qu'ils ont tenté de faire, ça a pas trop marché.
Oui, on est convaincu que dans un des points forts de la réforme Poutine était justement le combat interarmé. Et c'était ce qu'ils croyaient avoir démontré en Syrie. Et donc on s'attendait honnêtement à...
Après le problème de la Syrie, c'est que l'interarmée, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait de l'armée de l'air et puis il n'y avait pas énormément de troupes à terre russes.
Oui, 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 mais bon, il y avait les proxys syriens, si une troupe au sol. Donc là, on s'attendait quand même à ce que, avec son énorme avantage matériel en aviation, que les Russes conquièrent l'espace aérien ukrainien très rapidement et qu'ensuite la manœuvre aérienne puisse se développer en appui de la manœuvre terrestre, comme la Luftwaffe l'avait fait avec l'armée allemande en mai 40, chez nous, si vous voulez. Donc on s'attendait à une doctrine interarmée et on n'a rien vu. Et on voit aujourd'hui une armée de l'air qui ne sert à rien, alors qu'elle aurait théoriquement un très gros avantage. On voit une armée de l'air ukrainienne qui est capable de temps en temps de voler dans son espace aérien, alors les deux étant neutralisés en gros par les défenses solaires. Mais une vraie doctrine interarmée aurait pris en compte ce problème de défense solaire, et aurait, jouant sur sa supériorité, aurait rendu les contre-mesures ukrainiennes in fine, inutile. Vous voyez ce que je veux dire ? Les Ukrainiens, avec ce désavantage numérique, auraient fait belle figure, et puis ils auraient été pliés, si vous voulez. Et là, ça c'est le premier choc, et une surprise. Je pense que tous mes camarades, mes anciens camarades à l'OTAN, on en a la mâchoire décrochée jusqu'à la table. C'est pas possible. En 3 jours, c'est tout ce qu'ils ont montré de leur puissance aérienne, et maintenant, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est pas d'interarmée au départ.
Et inversement, du côté ukrainien, alors c'est compliqué, mais en même temps, il y avait des passerelles que vous soulignez tout à l'heure, donc on a peut-être des indices. Voilà, quelle est la doctrine il y a moins probablement de documents librement accessibles que les Russes, qui, il y a de la littérature quand même depuis 50 ans. Les Ukrainiens, qu'est-ce qu'on en sait et qu'est-ce qu'on a vu?
Les Ukrainiens ont réussi très efficacement à mettre à l'abri, pendant les premiers chocs, leur défense solaire et leur aviation. Ils les ont dispersés, ils l'ont fait juste avant les opérations, ça sans doute aidé par le renseignement essentiellement américain. Donc ils ont une manœuvre de dispersion qui leur a permis de prendre les coups. La DG de missiles qui est tombée n'a pas fait grand-chose, les a pas beaucoup gênés. Et après, ils ont eu une manœuvre de la défense solaire très, très efficace, très subtile. Par exemple, en n'allumant pas tous les radars. Donc, ils ont engrangé assez de succès, ils ont flingué assez d'avions et d'hélicoptères aussi avec les MANPAD, hein, les missiles portés à l'épaule, hein, qui ont donc rendu la basse altitude, les très basses altitudes, très dangereuses pour tous les aéronefs russes. Donc résultat, ils ont en gros conquis la supériorité aérienne défensive sur leur espace grâce à ça.
Ça, vous pensez que ça leur vient d'où, ce côté Enfin, c'est quoi? C'est ukrainien? C'est un peu inspiré de ce qu'on a pu leur dire? C'est un héritage soviétique, puisqu'on peut rappeler que beaucoup de leurs cadres ont été formés quand même dans l'armée rouge?
Ça, ils l'ont... Je pense qu'ils ont dû se dire, avant la guerre, on va s'en prendre plein la gueule. Donc, faut qu'on mette les moyens à l'abri. On n'est pas obligé d'être ukrainien pour raisonner comme ça, si vous voulez. Ils ont été très inventifs. Après tout, les Serbes l'avaient fait pendant la guerre du Kosovo, pendant la guerre aérienne du Kosovo. L'OTAN pensait flinguer tous les radars serbes et leurs missiles, etc. Et on n'y est pas arrivé, malgré la supériorité aérienne totale. Alors la différence étant que nous, on bombardait qui on voulait, quand on voulait. Mais on n'a pas détruit leur artillerie solaire. Là, les Ukrainiens... je pense que c'est leur manœuvre. Alors, est-ce qu'ils ont eu des conseils? C'est possible, mais on n'est pas obligé d'être américain pour raisonner comme ça.
Ensuite, donc là, le deuxième item, c'est l'organisation. Donc là, c'est plutôt la manière dont c'est commandé, la manière dont ils ont structuré leurs forces, dont ils articulent les différentes unités. Donc ça, si on refait l'analyse pied à pied, qu'est-ce qu'on a pu constater?
Alors, l'organisation du commandement proprement dite est très défaillante côté russe. Ils ont eu plein de chaînes de commandement. Déjà, il y a plusieurs ministères impliqués dans la guerre, parce qu'il n'y a pas que le ministère de la Défense qui ait des moyens militaires. Et puis après, vous avez les Kadyrovtsi, et vous avez Wagner, enfin, des gens qui sont théoriquement pas militaires, donc pas forcément sous les ordres, mais il faut leur donner une partie du combat, etc. Et chaque... flèche sur la carte a eu son chef. Et résultat, incohérence globale, répartition des moyens. Ils ont sans doute réparti homothétiquement la logistique, ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'effort, ni sur Kiev ou Kharkiv, ni après Kherson pour aller vers Mykolaïev. Personne n'a eu l'effort.
Donc ils n'ont pas eu de quoi, enfin ils n'ont pas visé un point de basculement, un point de...
Ils n'ont pas priorisé leurs moyens et ils avaient une chaîne de commandement très disparate. Je pense en partie parce qu'ils avaient prélevé des moyens sur d'autres districts militaires que le district militaire ouest. Le district militaire ouest qui était le plus gros, le plus beau, le plus flambant neuf, le plus moderne, etc. Ils ont quand même récupéré un paquet, ils ont récupéré les plus belles unités des autres, si vous voulez. Le district sud, c'est le Caucase, centre, c'est en gros au nord du Kazakhstan, et puis est, c'est Sibérie. Et je pense que ces unités ont gardé des liens hiérarchiques, si j'ose dire, avec leur entité de départ. Et si je dis ça, c'est pas parce que je le sais, j'en sais rien, mais c'est parce qu'il y a une valse des généraux. Tous les généraux, donc ça c'est en presse anglo-saxonne, ils citent les noms, tous les généraux commandants de district ont été limogés sur les 6 derniers mois. C'est lié à la performance de leurs gens, des gens qu'ils ont envoyés au combat.
Et pourquoi limoger quelqu'un qui est à l'Est si...
Parce qu'il a ses soldats à lui qui sont partis au combat et pour lesquels ça ne s'est pas bien passé. Et donc la sous-performance des gens retombe, si j'ose dire, sur les chefs. Et donc Poutine a dit en avril, et je nomme le général Dvornikov, commandant de l'opération dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il lui a fallu quasiment 2 mois, 6 semaines, pour créer ce que nous, à l'OTAN, on appellerait un commandant de théâtre. Alors que face à lui, semble-t-il, le général Zaloujny, hein, le SEMA ukrainien, et en dessous de lui, Silski, qui doit être le gars à la manœuvre proprement dite, il n'y a pas de débat. Et c'est un commandement centralisé et unifié. Et donc... Ce commandement-là, et d'ailleurs, Dvornikov, à l'époque, a été présenté. Qui est Dvornikov? Donc tout le monde a regardé. Belle campagne syrienne. Donc Dvornikov, boucher d'Alep. Il a tenu 7 semaines. Et discrètement, il a été remplacé par un autre qui, de mémoire, s'appelle Jidko, dont personne n'a entendu parler. Et donc l'actuel Sourovikine, si mes souvenirs sont bons, il est en fait le troisième. Et lui aussi est un boucher d'Alep, si vous voulez. Ils ont un stock de bouchers à Alep, je pense, qu'ils envoient sur le front.
Ah, c'est peut-être l'indice que le vrai commandant de théâtre, enfin celui qui veut l'être, c'est Poutine.
C'est sans doute vrai, dans une large mesure, paraît-il, d'après la presse anglo-saxonne, que c'est Poutine qui a insisté pour que les unités, avant la mobilisation, pour que les unités ramenées, grattées sur tous les autres théâtres, et envoyés sur le front, soient engagés immédiatement, en particulier pour les grandes batailles de l'été dernier, quand ils se sont emparés très lentement et très péniblement des villes à Lysychansk, etc., etc., Severodonetsk. Alors que peut-être qu'un général qui aurait vraiment été le chef chez lui aurait dit « ce qu'on me donne, je vais en faire une masse de manœuvre. Au lieu de l'engager par incrément, je vais en faire une masse de manœuvre. » Ce que les Ukrainiens ont fait.
Mais alors justement, donc c'est le troisième item, c'est le training, donc l'entraînement. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on l'oublie un peu, mais en fait, l'opération de février, elle s'est déclenchée à la suite d'un long moment où c'était censé être des grands exercices avec les Biélorusses et que les grandes manœuvres interarmées, etc. Et en fait, c'est ça qui a débouché, enfin, ça leur a permis de positionner les forces, mais c'est ça qui a débouché. Donc on aurait pu penser, même si c'était un peu pour le show, que au moins ils se seraient entraînés à un moment. Et ça, bah, de fait, c'est pas un succès flambant. Quoi.
C'est clairement, ils ne se sont pas entraînés. Je veux dire, pour voir leur niveau de performance à tous les niveaux, en combat interarmes, la gestion, la combinaison des feux et de la manœuvre, le génie, la planification, la logistique, etc., sur tous les items, je veux dire, ils ont sous-performé. Or, ils avaient eu 4 mois pour s'entraîner. Il se trouve que moi, j'ai eu 4 mois pour m'entraîner avant la guerre du Golfe, comme on dit pudiquement, qui était pour moi une grosse manœuvre. Bah, je peux dire que quand on a la différence, quand on est arrivé sur le théâtre, pour moi en début novembre, on était quand même des unités structurées, on se connaissait, je veux dire, on serait rentré en guerre directement, on se sentait bien, si vous voulez. Mais pendant 4 mois, on a travaillé. Et le résultat, c'est qu'au bout de 4 mois, avant de commencer, il y a des tas de petits trucs qu'on n'avait pas vus avant, qu'on a réglés, etc. Et là, je peux dire qu'on pouvait mesurer un gros écart de performance entre une troupe correctement entraînée qui arrive sur le théâtre et 4 mois après. Donc là, moi je me disais, après 4 mois d'entraînement, c'est tout ce qu'ils savent faire. Et j'en déduis que cette armée, structurellement, ne sait pas s'entraîner. Et c'est le problème de fond.
C'est ça, parce que ce n'est pas qu'un problème de flemme du moment, il faut une culture de l'entraînement pour que ça marche.
Exactement, il faut une culture de l'entraînement. Et alors la culture dans l'entraînement, elle est quand même fondée sur la vérité. Je veux dire par là qu'il s'agit de régler des problèmes très souvent. Bah, si personne ne veut reconnaître les problèmes, bah, on ne va pas les régler. Et donc cette armée russe, le régime Poutine, a fait que personne n'ose dire la vérité, je pense, dans une large mesure. Ou que les gens ont peur de la vérité et qu'en revanche, pour avancer, il faut pouvoir se vanter et être passé pour le meilleur. Donc ça favorise les grandes gueules. Ça favorise un autre phénomène que les Américains appellent le back scratching, ce qui est « je te gratte le dos, tu me grattes le dos ». Donc chacun fait la promotion de l'autre. Mais cette promotion réciproque permet aux gens d'avancer dans la carrière, mais n'assure pas la compétence de leurs subordonnés, qui devrait au contraire entendre un langage de vérité, et voilà. Donc, cette armée...
Ça rappelle un très beau proverbe latin qui est « Asinus asinum fricat, l'âne frotte l'âne », ce qui veut dire « les imbéciles se congratulent mutuellement en général ».
Oui, c'est la source de la sous-performance russe aujourd'hui. Alors je ne dis pas qu'en Occident, on n'est pas notre lot d'âne, et j'en ai fait partie joyeusement, mais au moins on se disait « faut progresser, il y a toujours quelque chose qu'on doit faire ». Alors que l'armée...
C'est ça. De l'autre côté, les Ukrainiens, bah, c'était difficile à savoir, mais en même temps, ce que vous nous indiquiez un peu tout à l'heure, leur entraînement, il était quand même bien réel parce que ça canardait pendant 8 ans. Quoi.
Eux, ils ont été confrontés à la réalité de 2014 à 2022, et une capacité qui m'a vraiment surprise, moi, très fortement, c'est leur capacité à intégrer le matériel qu'on leur a donné. Parce que là, maintenant, vous connaissez Eurosatory, le salon de l'armement, Aujourd'hui, Eurosatory.
C'est le Disneyland des biffins.
Voilà, Eurosatory, on l'a en Ukraine aujourd'hui. Enfin, j'exagère à peine, hein, ils ont énormément de matériel.
Alors, vous dites ça parce qu'en fait, à Eurosatory, je peux préciser qu'il y a énormément de stands. Tous les industriels arrivent pour présenter leur matos, donc on arrive sur un catalogue invraisemblable de trucs, mais qui n'est pas unifié. Y a pas, alors que normalement, dans une armée, on est censé avoir un catalogue à peu près cohérent d'un certain nombre d'armes, mais qui ont des places et des positionnements les unes par rapport aux autres. Quoi.
Voilà. Donc à l'heure actuelle, les Ukrainiens, ils utilisent comme artillerie l'artillerie héritage, legacy, hein, de l'Union soviétique finalement, et la même que les Russes. Bon, plus l'artillerie américaine, les HIMARS et des canons tractés, plus l'artillerie française, les César, plus l'artillerie allemande, les Panzer 200 ou 2000, je ne sais plus. Vous voyez, et il y en a peut-être d'autres au passage, peut-être qu'il y a un mortier tchèque là-dedans. Donc, et ils ont réussi à les intégrer. Dans ma petite tête, je m'étais dit en mars-avril, si on veut vraiment les aider, il faut qu'on leur amène l'artillerie. Parce qu'ils mettront trop longtemps à apprendre l'artillerie. Et au moins, ça serait à nous de faire la contre-batterie. Donc j'avais essayé d'avancer cette idée de oui, on rentre dans la guerre. Simplement, on ne rentre pas au contact, nuance. Mais on fournit l'artillerie de contre-batterie et l'artillerie solaire. Parce que je me disais, il faut 2 ou 3 mois pour apprendre et ça risque d'être trop tard. Bon, bah en fait, mes chefs ont eu raison de ne pas suivre mes avis. Ils avaient peut-être une information que je n'avais pas d'ailleurs, mais le fait est que très rapidement, les Ukrainiens ont appris à se servir de tous ces moyens qu'on leur a donnés. Ça, c'est une supériorité intrinsèque à leur armée. Ça, c'est pas américain ou anglais, c'est ukrainien, la capacité à intégrer tout ça.
Alors là, c'est très bien parce qu'on a couvert le matériel aussi, mais alors on peut dire que c'est... on en parlait avec Ryan Nordali, notamment quand on parlait de l'artillerie, il y a aussi une corrélation... Ce qui alimente ça, c'est aussi le fait qu'il y a une mobilisation générale, souvent de gens qui sont très éduqués, qui ont un très haut niveau d'éducation, donc des ingénieurs, etc. Et que du coup, ça facilite peut-être l'apprentissage, ça facilite peut-être la montée en gamme par rapport à une armée où on mobilise à tout va, mais des gens sans formation particulière, quoi.
Absolument, et puis... les Ukrainiens sont beaucoup plus éduqués que, ça me fait de la peine de le dire, mais les Bouriates ou les Daghestanais qui sont employés sur le front. Parce qu'en plus de ça, il y a un racisme inhérent à la Fédération de Russie aujourd'hui, qui est quand même d'engager devant, finalement, les Untermensch des républiques et sujets de la Fédération reculés, les peuplades asiates, en gros. Ça fait vraiment de la peine que ces gens-là soient traités comme ça, comme chair à canon, et que pendant ce temps-là, les élites moscovites et saint-pétersbourgeoises soient en gros préservées de la mobilisation. Chez les Ukrainiens, le peuple tout entier, effectivement, est en guerre. Quand j'ai travaillé en Ukraine avec une ONG, il y avait une des collaboratrices, j'ai envoyé un mail au début de la guerre en disant « Tu es où ?» Et elle m'a dit, je suis en Allemagne. Alors, je n'avais pas gardé des liens avec eux. Je lui ai dit, comment ça, tu es en Allemagne ? Ah, oui, je suis en Allemagne, mais depuis l'année dernière. Elle était donc depuis 2021 en Allemagne, où elle était prof d'anglais, parce que son mari avait un traitement lourd, une chimio à faire. Donc, en fait, c'était... Bref, elle était allée en Allemagne faire la chimio de son mari, avec un petit enfant. Et elle m'a dit, mon mari a fini sa chimio, il est parti en Ukraine. Alors que ça faisait depuis l'été 2021 qu'il vivait en Allemagne, qu'à la limite, il aurait fait canard, il serait resté en Allemagne. Non, il a fini sa chimio et volontairement, il est retourné en Ukraine. Donc ça, c'est le soldat que les Russes n'ont pas.
Alors ensuite, là on a couvert un peu le personnel aussi, peut-être dire quelque chose donc le L c'est le leadership, les chefs, le commandement, la manière dont ils s'expriment.
Oui, on a parlé de la compétence ou de l'incompétence, la corruption, la redondance des chaînes, tout ça.
Là on en a parlé un peu pour les hauts officiers, mais on peut dire aussi qu'il y a des vrais problèmes, on voit sur le terrain, notamment ils prennent la foudre les officiers russes, et ils ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas un stock infini, et que du coup ça fait... Bon, c'est une armée qui est peut-être plus aguerrie qu'il y a quelques temps, mais en tout cas où les forces les plus qualifiées semblent être un peu disparues, quoi.
Elles sont, oui, c'est une armée fondamentalement indisciplinée. Et les officiers ne commandent pas, je pense. On voit des scènes sur les médias sociaux où les officiers sont, entre guillemets, terrorisés par leurs propres hommes. Et par exemple, toutes les exactions, alors on peut les lire de deux façons, les exactions. Soit les exactions, je pense à Boutcha, mais il y en a eu un paquet à gauche, à droite, soit les exactions sont délibérées. C'est, à la limite, c'est sur ordre. Auquel cas, on pourrait dire, cette armée est commandée, elle commet des crimes parce qu'elle a reçu l'ordre de commettre des crimes. Soit il n'y a pas eu d'ordre spécifique de commettre des exactions, des pillages, par exemple. C'est juste que les soldats s'y livrent et les officiers, ça ne les gêne pas. Donc, sans dit long, soit sur la formation éthique des officiers, soit sur leur autorité, tout bêtement. Au sens militaire du terme, un soldat qui commet des pillages ou des viols est moins efficace qu'un soldat qui n'en fait pas. Ça ne me serait pas venu à l'esprit, moi, comme lieutenant ou capitaine dans mon armée, de laisser faire, de laisser les soldats faire ce genre de choses, parce que ça, indépendamment de l'honneur militaire, ça va contre la simple efficacité opérationnelle. Donc là, ce que tolèrent les officiers russes, soit c'est sur ordre au sens eux aussi sont des criminels et ont cette mentalité criminelle, soit c'est parce qu'ils n'ont pas l'autorité qu'il faut.
Mais dans tous les cas, ça reste toujours contre-productif à l'échelle d'une opération.
Ah oui.
Et enfin, alors peut-être que vous voulez dire un mot sur le leadership ukrainien. Alors, c'est ce qu'on en sait, parce que c'est compliqué.
Pour ce qu'on en sait, c'est une jeunesse ardente, très très motivée et compétente. Et en plus de ça, beaucoup d'esprit d'initiative. Ça a été documenté. Leurs succès sont dus à l'esprit d'initiative des subordonnés. En fait, les gars ont perçu un trou, ils y sont allés et le reste a suivi, un peu à l'israélienne.
Choix tactique à une époque, c'est-à-dire le côté, il y a une autonomie des chefs qui peuvent approfondir une percée. On fait confiance aux chefs.
On fait confiance. Je pense que c'est comme ça.
Modèle très inverse de l'héritage soviétique et du modèle russe, quoi.
Oui, oui. Et puis un modèle qui est pas spécialement inféodé à la planification. En plus de ça, comme ils ont peu d'artillerie, parce qu'ils ont peu d'obus, en fait, ils sont obligés d'être très économes avec leurs obus. Donc il faut qu'ils compensent par la subtilité et la manœuvre ce que les feux ne leur apporteront pas, à la différence des Russes. Les Russes ont beaucoup trop compté sur leurs feux, donc l'artillerie conquiert, l'infanterie occupe, si vous voulez. C'est pas comme ça que ça marche. Et par exemple, ces régiments de drones, c'est amusant, les gars se sont... Et ils ont acheté des drones civils et ils les ont modifiés pour en faire des engins d'observation du champ de bataille, de détection des batteries adverses, par exemple, et puis pour larguer des petites grenades sur la tête des chars.
C'est amusant.
C'est amusant. Ça n'a pas changé le sort de la guerre, mais ça a rendu service et ça a contribué à créer une psychose chez les Russes qui n'a pas aidé.
Oui, c'est vrai, ça, on n'y pense pas, mais un peu comme la sirène du Shtuka à une autre époque, le fait que dès qu'il y a un truc qui fait bzzz dans l'air, tout le monde aille à couvert, ça doit.
Oui, alors le bzzz dans l'air, c'est plutôt les drones iraniens de maintenant qu'on entend. Sachant que les drones, les petits drones qu'utilisent les Ukrainiens, je ne pense pas que les gens les entendent avant qu'ils larguent leur truc. Mais cette capacité à s'organiser, à faire du financement collaboratif pour s'acheter ça et créer une petite chaîne pour modifier les drones, pour pouvoir mettre des munitions dessus et tout, ça c'est, on pourrait dire, les Ukrainiens le font. Bon, les Français pourraient le faire. Pourquoi les Russes ne le font pas ? D'une part, parce que les Russes qu'ils feraient sont déjà à l'Ouest. Les Russes qu'ils feraient n'adhèrent pas au modèle, en gros. Ils ont déserté déjà. Et une autre raison, c'est que même le Russe qui aujourd'hui ferait preuve d'esprit d'initiative, dans sa chaîne, il a un problème. C'est clairement pas une chaîne qui encourage l'esprit d'initiative. Donc, à l'arrivée, la valeur du soldat ukrainien... est dans le fait qu'il soit considéré comme ayant une valeur.
Non, mais alors, donc, en conclusion, on voit vraiment des groupes qui se croisent, quoi. Il y avait le potentiel, en tout cas, incroyablement impressionnant des Russes, en tout cas sur le papier, avant le 20 février. Il y avait le petit poussé ukrainien. Et puis, là, ce que vous nous décrivez, c'est, des dynamiques inverses, des Ukrainiens qui montent en compétences et des Russes qui voient leur force vive un peu se tarir, en tout cas baisser en quantité et en niveau. Donc, disons-le comme ça. Vous pensez qu'il y a une chance que les trajectoires s'inversent ?
Oui, alors je pense que l'armée ukrainienne va gagner cette guerre. Elle est en train de la gagner, ça peut mettre très longtemps.
Je voulais dire, est-ce qu'il y a des chances que les Russes inversent la vapeur et...
Non. Il n'y a pas de chance parce que ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Je serais beaucoup plus inquiet si l'armée de mobilisation manifestement suivait un programme d'équipement, d'entraînement normé. Enfin, vous voyez, c'est... Mais pour ça, il faudrait qu'ils retirent les cadres qu'ils ont dans leur première armée, si j'ose dire. Et la passivité de cette première armée, qui est celle du Donbass, qui prend des baffes, quoi, en gros. Je pense que structurellement...
C'est un indice que ce qu'ils envoient comme renfort, ça ne fait pas monter le niveau, ça a plutôt tendance à le baisser.
Non, ça va le baisser. Et logistiquement, un homme est un homme, quoi qu'il, quelle que soit sa motivation. Et en fait, la démographie militaire, elle est à l'avantage des Ukrainiens. Je pense que l'armée ukrainienne est supérieure en effectif aujourd'hui à l'armée russe, même en tenant compte de la mobilisation. Donc, alors, il faudra qu'elle soit très supérieure pour pouvoir être sûre de libérer tout son pays, vous voyez. Mais l'armée russe d'aujourd'hui, et même ses 250 000 hommes mobilisés, s'ils étaient transformés en masse de manœuvre crédible, elle ne serait plus suffisante pour l'emporter face aux Ukrainiens.
Et vous pensez que ça, c'est une perspective tolérable à partir de ce qu'on disait au début, quoi, du fait que la Crimée avait été le coup de gloire des Russes. Vous pensez que c'est une perspective tolérable pour le pouvoir poutinien, et plus généralement pour l'organisme qu'est l'armée russe, quoi.
Alors, pour le pouvoir poutinien plus que pour l'armée russe, l'absence de victoire, c'est un acide, ce que j'appelle l'ukrainium, qui ronge son régime. Donc le pouvoir poutinien, il va tomber, je pense. Pour moi, c'est mécanique. Vous avez un pouvoir autocratique qui se lance dans une aventure militaire et vous perdez. Eh ben, vous chutez. C'est vrai dans tous les pays. C'est pas réservé aux autocraties. Hein. Dans tous les pays, vous perdez salement une guerre. On change de régime. Ça a été le cas en France. Hein. 1815, 1870, 1940. Pour les Ukrainiens... cette guerre est devenue tellement horrible et ils n'ont pas fini de souffrir en plus, que je ne vois pas comment ils pourraient accepter une victoire partielle, une Alsace-Lorraine par exemple. Vous voyez, la France a accepté l'Alsace-Lorraine en 1871 parce qu'elle avait perdu la guerre, point. Et donc les Allemands ont tracé le trait qui les arrangeait sur la carte. Le Reich allemand, tout nouvellement créé, a tracé le trait. Là, on est dans une situation peut-être à hiver 1915. Aucun camp n'a accepté la fin de la guerre en 1915. On a attendu que le sort des armes en décide. Donc je pense que les Ukrainiens, maintenant, iront jusqu'au bout. Est-ce que ce jusqu'au bout intègre la Crimée ou pas? Je ne sais pas. Et puis il est surtout beaucoup trop tôt pour le dire. On verra quand on y sera.
Est-ce que les Russes ont des leviers encore? Et si oui, lesquels? Parce que là, il y a la mobilisation partielle qui pourrait devenir...
Alors, la mobilisation, ils ont déjà dit qu'ils allaient l'arrêter, au sens qu'ils n'en avaient pas besoin de plus. Alors, pour en faire plus, et puis ils vont les mobiliser avec quoi comme armement? Parce que maintenant, tout est parti, en gros. Puis il manque de munitions, les Russes, comme les Ukrainiens. Il n'a plus de levier pour gagner la guerre. Il a encore des flèches dans son carquois, dont la dernière, c'est les drones iraniens. Donc la destruction, semble-t-il, il vise la destruction du réseau énergétique ukrainien. Va-t-il y arriver? Je ne sais pas. Est-ce que ça lui apportera la victoire? Sûrement pas. Je ne vois pas quoi d'autre. On a parlé du nucléaire, mais j'y crois pas. Il y a un moment où il sera à sec.
Merci beaucoup, général Yakovlev.
Merci à vous.
Donc je rappelle qu'on peut vous retrouver très régulièrement ces jours-ci et dans les semaines et les mois qui viennent, peut-être sur LCI, pour des analyses donc du conflit ukrainien. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, tout comme les retours et appréciations et notes sur Apple Podcasts ou sur SoundCloud. Ça aide notamment à la diffusion du podcast, ça aide aussi à avoir des retours très intéressants et très instructifs sur ce que vous pensez de l'émission. Merci à toutes et tous, et à la prochaine.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.